Retour à Allo Showbiz sur les ondes de CJSO 101.7 FM. De la belle visite aujourd'hui, Simon et Martin de Raton Lover. Salut les gars.
Allô, allô.
Ça va bien?
Yes.
Deuxième album.
Ouais.
Après un premier qui avait été composé un peu enfermé dans le bois, est-ce que je me trompe pas? Est-ce que je me trompe?
Ben, en fait, c'est plutôt le contraire. Le premier, on l'a fait en ville.
OK.
Puis le deuxième, okay. On s'est enfermé dans le bois.
Est-ce que c'était un souhait, ça, de dire ça? De dire, on va complètement se couper des gens pour aller travailler sur un album?
Ouais, ben oui, c'est un beau trip.
Un trip de musicien, en même temps.
Un beau trip de musicien, pas de réseau.
Quand en même, plus, donc en déconnecté 2017, complètement du monde.
En 2017, pour te vanter de ne pas avoir eu de réseau pendant que tu fais ton album, c'est une de nos principales réalisations de l'année dernière.
Est-ce qu'on compose mieux dans ce genre de climat-là?
Oui, puis je pense que ça a fait changer un peu notre façon de jouer aussi. On a joué un petit peu plus relax sur cet album-là que sur le premier. Puis comme on est un band qui rock pas mal plus en show qu'en album, ça allait bien avec cette vision-là. Dans le sens que en général, quand on écoute des albums, je pense que les gars du band, c'est pas mal tout ça. Moi, je fais la vaisselle, j'écoute un album, j'ai pas nécessairement envie de me faire trop brasser les oreilles en disque.
Ouais.
Mais en show, faut que ça brasse, faut que ça soit le fun. Fait que, étant donné qu'on est peut-être plus rock un peu en show qu'en disque, ça faisait bien d'être comme dans le bois, plus relax, sur le bord d'un lac. Puis, ouais, ça nous a rendu un peu plus relax, je dirais.
C'était quoi le climat? Est-ce qu'il y avait un quota de chansons par jour? Est-ce que vous étiez donné des directives de band sur le travail?
Ben en fait, on voulait faire les tunes le plus live possible, c'est-à-dire que on joue tout le monde ensemble puis on fait des prises de band.
Parce que souvent, c'est musicien par musicien, en studio, on découpe puis après ça on fait un mix. Dans votre cas, c'était pour retrouver le son des shows en fait, j'imagine?
Ouais, avoir un peu cet effet-là de groupe qui joue ensemble, tu sais. Puis je pense que c'était un des commentaires assez positifs qu'on avait reçus du premier album. Il y avait un gars de BRBR qui disait... Que t'as l'impression d'être assis puis d'avoir le band qui joue dans ton salon quand t'écoutes l'album. On voulait comme aller rechercher un peu ça aussi au studio Wild. Fait que c'est pour ça qu'on a enregistré vraiment tout le monde ensemble.
Deuxième album, c'est souvent différent parce que pour le premier, on a des chansons déjà un peu en banque. On a travaillé un peu à gauche à droite. Pour le deuxième, le délai est plus restreint. Il y a déjà un public qui attend un album, ce qui est moins le cas avec un premier. Est-ce qu'il y a une pression quand on prépare un deuxième album qui est différent en tout cas?
Je pense qu'on l'a tous vécu de manière différente les uns les autres, puis ensemble aussi, parce qu'on était beaucoup sur la route. On a fait 45 jours de tournée juste l'été passé. Puis,
Donc presque tout l'été,
puis c'est là que la plupart des tunes se sont écrites. Puis bizarrement, on s'est rendu compte par après, ce qui n'est pas bizarre pendant tout en fait, c'est que l'album parle beaucoup de lâcher prise. Puis je pense que pour un album qui a été écrit en tournée, je pense que lâcher prise, c'était vraiment le mot d'ordre, là, parce que t'es tout le temps parti, t'es toujours ailleurs, t'as pas vraiment beaucoup de temps pour t'arrêter puis réfléchir à tout ça. Puis il y a un petit côté de ça sur l'album, mais il y a aussi des chansons un petit peu plus réfléchies qui ont été faites plus dans un contexte de vie quotidienne à Québec.
Donc vous écrivez pas de la même façon sur la route? Que chez vous ou dans un studio, par exemple?
Non. Puis moi, je pense que c'est normal aussi. Je pense que t'es... disons-le pour nous, mais je pense que peu importe à quel endroit où tu vas, ça va vraiment influencer ce que tu fais, c'est sûr. Là. On n'est pas pareil en show qu'on est en CD.
Ouais.
On n'écrit pas pareil sa route que quand on est chez nous. On joue pas pareil quand on joue dans un studio en plein milieu du bois, pas de réseau, que quand on est en pleine ville. Fait que juste varier les horizons puis les paysages, ça peut être vraiment trippant, puis justement ça donne des couleurs différentes. On peut
jouer. Et c'est important avec ça sur un album d'avoir ces deux facettes-là, la facette un peu plus légère et la facette un peu plus deep. Dans les textes?
Ben, il y a comme ce paradoxe-là dans tout ce qu'on fait, tu sais, Raton Lover.
Ouais, avec le band, le nom de band, évidemment, il y a ça vient presque automatiquement.
Il y a toujours un peu une chose et son contraire, tu sais. Puis on joue avec ça, puis avec ces teintes-là. Le premier album était noir et blanc, justement pour ça, parce que ça montre vraiment deux couleurs complètement différentes. Là, on a apporté plus la... Ouais. Et tu peux te rapprocher, tu veux jaser avec moi. Yes.
Le sens du vent, pourquoi?
Ça s'est imposé tout seul. Vraiment, on était au studio en train de préparer notre premier 45 tours parce qu'on a fait des vinyles, des mini-disques avec vraiment une chanson de chaque bord. Puis on devait enregistrer une chanson assez rock pour mettre sur la face B de ce disque-là. Puis le soleil s'est couché sur le lac. On a regardé ça. Puis on s'est tous dit, ah, ça me tente tout pas de jouer la grosse tune rock drette là. Pourquoi qu'on jammerait pas un peu le sens du vent drette là, tu sais? Puis on a tellement buzzé quand on l'a enregistré qu'on a décidé de la mettre sur le disque. Ben sur le 45 tours qui précédait l'album. Puis là, on s'est rendu compte que cette tune-là, on cherchait pas à l'avoir, elle prenait place comme par elle-même. Elle arrivait tout le temps à un moment où on l'attendait pas, puis elle apparaissait dans le portrait. Puis on s'est rendu compte que finalement, le texte, il venait bien illustrer ce côté-là, lâcher prise de l'album. Je pense qu'on peut changer de voile, mais pas le sens du vent. C'est un peu ça le point central autour de l'album, je pense.
Êtes-vous bon avec le lâcher-prise? Parce que souvent, un album veut toujours travailler ça. On peut toujours trouver quelque chose à corriger. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut qu'il soit sur le marché. Êtes-vous capable de dire, on lâche-prise, c'est bon, c'est comme ça qu'il va être sur les tablettes?
Ben, on n'a pas le choix d'être capable. Parce qu'on le fait, puis à un moment donné, il faut que tu le fasses. Sinon, on n'aurait jamais rien fait. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres là. Moi je pense que je suis un éternel têteux dans la vie. Puis peut-être que le fait que l'album parle de lâcher prise, c'est peut-être une auto-psychanalyse ou je sais pas quoi là, dans le sens
c'est un
que
message que tu t'envoies,
c'est un message que je m'envoie à moi-même, je pense. Ouais, ça. Souvent j'ai ça, je me dis je devrais peut-être m'écouter un peu plus.
Il y a eu un lancement à Québec. C'était important de faire ça dans votre coin?
Oui, évidemment. C'était vraiment une super soirée. Puis il y a eu, d'ailleurs, dans nos invités, il y avait Antoine Lachance qui vient d'ici. Ouais. Puis il nous a fait l'honneur de reprendre une de nos tunes, les yeux fermés, une tune de notre premier album. Puis il nous a fait une version de feu de la tune. C'était vraiment très cool. On était toute le band sur le stage avec lui, au centre, puis... Il nous a tiré ça à la guitare comme un chef en chantant, puis c'était vraiment cool. Là.
Est-ce que c'est toujours spécial de jouer à Québec pour vous autres?
Ben évidemment, oui, puis on essaie de pas y aller trop souvent. Je pense que chaque band, peu importe de l'endroit où tu viens, faut pas que tu brûles ton monde puis tout ça. Fait qu'on essaie que ça soit toujours un plus gros happening à chaque fois qu'on y va. Puis
d'où les invités, j'imagine, parce que généralement dans un lancement d'album, il y a pas d'invités. C'est le band qui est là, qui présente ses tunes. Vous avez décidé d'y aller avec du monde.
Ouais, mais nous autres, les invités, c'était vraiment dans la philosophie que, tu sais, Raton Lover, c'est beaucoup basé sur une espèce d'esprit de communauté puis un esprit de partage. Par tout ce qu'on va, souvent, on se fait recevoir, même quand on va jouer au Nouveau-Brunswick, exemple, on se fait recevoir chez des gens, tout ça, on en fait des échanges, on invite des artistes du Nouveau-Brunswick à jouer dans nos shows, etc. Fait que cette espèce d'esprit de partage-là, il est central à l'intérieur du band, puis aussi avec nos collaborateurs. Fait que le fait de faire un lancement pendant Rideau à Québec est comme une espèce de, disons...
Une vitrine pour les diffuseurs.
Vitrine pour jouer devant les acheteurs de spectacles. Ben, le fait d'amener des invités dans une vitrine, c'est déjà un peu... on voit pas ça souvent parce que, bon, évidemment, chacun joue ses cartes pour soi-même. Ouais. Mais nous autres, on a dit non. Nous autres, on veut mettre de l'avant cet esprit de communauté-là, ben on va le faire, on va agir de la sorte. Puis je pense que l'album parle beaucoup de ça aussi, de serrer les coudes puis de se tenir. Fait que je pense qu'en tant qu'auteur puis en tant que band, il y a rien de mieux pour porter ton message que d'agir comme il faut par rapport à ça, là.
Au départ, toi, t'étais batteur, si je me trompe pas.
Ouais.
Et t'as pris le lead du band éventuellement. Est-ce que t'aimes ça, être up front dans un band? Toi qui as toujours été à l'arrière complètement.
Ben en fait, c'était un besoin. Dans le sens que je sentais que j'avais quelque chose, une énergie à partager. Avec quelque chose que je sentais qu'il fallait que je fasse puis qu'il fallait que j'essaye. Puis très fort, heureusement, Martin, ici présent, puis Simon... au tout début du projet, avant même qu'Éric et Fred arrivent, ils m'ont vraiment donné une grosse tape dans le dos, puis ils m'ont dit « Vas-y, man, fais-le, tu vas voir, ça va être trippant. » Puis ils ont embarqué avec moi, imagine, je suis leur drummer, je deviens leur chanteur, puis tu sais, les boys, ils m'ont pas mal encouragé, ça a été mes premiers supporters, mes premiers supporters, pas dire fans, mais...
C'est Danny Placard qui réalise l'album. Pourquoi vous avez voulu travailler avec Danny?
Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. On partait de Québec pour aller au Métropolis à Montréal. Puis on a entendu une de ses tunes en radio. Puis là, on se disait, aïe, man, ça sonne donc bien les drums. Dans la dernière fois, j'ai entendu des drums sonner de même, mais c'était fait au studio Wild. Puis là, on se disait, ça serait trop hâte de faire l'album là-bas. Puis là, on jasait tout ça, tu sais, assez généralement. Puis là, à un moment donné, on arrive au Metropolis, puis Eric a vraiment besoin d'un café. Il dit, ah, man, faut que je prenne un café, tu sais, la route, tout. Puis let's go, on s'en va au bar, on arrive là-bas. Puis il n'y a pas de café au bar, on est déçu. Mais il y a Danny Placard qui est là. Puis il se tourne. Puis là, on se met à y parler. Puis on se rend compte qu'il est vraiment fan de Wilco, le band qu'on va voir au Metropolis. Puis là, c'est vraiment une influence commune super importante pour nous autres. T'sais. Fait qu'on jase un peu de tout ça. On va au Sainte-Élisabeth le soir, on jase un peu avec. Puis deux semaines après, on se ramasse à Francofête en Acadie. Puis par hasard, on arrive une journée avant, puis c'est Placard qui joue. Tout le band le voit à l'œuvre, voit à quel point ce gars-là, il a une présence complètement fantastique sur le stage, puis que ça se passe vraiment, puis qu'il est vraiment dans les mêmes influences que nous autres. On y envoie notre stock, puis on décide de travailler avec lui, puis ça a été vraiment... ça a été un charme, là. Ça a été crissement cool. Ouais.
Qu'est-ce qu'il apporte au band, Danny Placard? Parce qu'évidemment, quand on travaille nous-mêmes les tunes, quand on est toujours ensemble, la même gang, on a besoin d'un recul, à un moment donné. Donc, le job du réalisateur, c'est entre autres ça, c'est le regard extérieur sur le travail.
Ouais, t'avais-tu quelque chose à dire là-dessus?
En fait, c'est justement ça, c'est le recul qui a amené, puis il nous a justement beaucoup poussé au lâcher prise, tu sais. Justement parce qu'on était un petit peu têteux, puis lui, il est tout le temps la personne qui mettait, tu sais, son poing sur la table en disant « Bon, ok, là, les gars, là, on arrête de niaiser, là. Fini, là, tu sais. C'est bon, on la garde, celle-là, tu sais.
» Ouais, puis Danny Placard, c'est un gars qui aime vraiment les choses qui sont... organiques, qui sont joués, puis tout ça. Puis pour pouvoir garder quelque chose d'organique, faut pas que tu sois trop têteux, parce que sinon tu veux tout recommencer tout le temps. Puis là, nous autres, ils nous empêchaient un peu de tomber là-dedans. Ouais, c'était parfait.
Et ça permet de partir en tournée avec deux disques. Ça, c'est le fun, j'imagine, pour un band d'avoir un choix de chansons et de pouvoir piger là-dedans, retravailler les tunes du premier, les remettre au goût du jour et d'y aller avec les nouvelles tunes.
Oui, puis on a fait appel à JP Dalpé aussi pour ça. Pis ça a été vraiment un autre gros upgrade au band puis au show. Parce que sur l'album, il y a des tunes un peu progressives, rock-prog, là, qui ont commencé à apparaître sur le deuxième album. Il y avait déjà des petites traces de tout ça sur le premier, mais là, ça commence à grandir de plus en plus. Puis on se demandait comment est-ce qu'on allait faire fitter ça dans notre show un peu rock 70s avec des touches de folk country. Ouais. Rajouter du prog là-dedans, tu sais, c'était comme une drôle de recette à faire. Puis JP Dalpé nous a vraiment mis en confiance là-dedans parce qu'il nous a aidé à travailler. On a fait une résidence de mise en scène avec lui à Place des Arts. Puis il nous a vraiment aidé à mettre ça de l'avant, puis justement tirer maximum profit de chaque chanson, de chaque identité, de chaque petite histoire pour essayer de rendre ça vraiment un show le plus cohérent possible, malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'influence. On a plein d'influence dans ce band-là, puis on se limite pas, tu sais. On dit pas, nous autres, on fait du folk, tu sais. Ou on fait, tu sais, on peu importe, si on peut explorer quelque chose, on va le faire, tu sais. Puis c'est ça, ben dans une certaine limite aussi, là, évidemment, là, mais c'est ça, on est vraiment content du travail de JP Dalpé pour la mise en scène, le fait de mettre les tunes des deux albums dans un seul show. Tu gardes les meilleurs bouts, tu gardes les meilleures tunes, après ça, tu crées des transitions musicales autour de ça, des buzz instrumentaux à travers ça, puis le tour est joué, c'est vraiment le fun. Là.
Vous avez parlé du 45 tours tout à l'heure, c'était un trip que vous vouliez vous payer, j'imagine, d'avoir un vinyle, ou en tout cas un 45 tours, chose qui revient à la mode, mais que beaucoup de musiciens ont écouté, des vinyles.
Ben, nous-mêmes, on en écoute des vinyles, puis je veux dire, c'est un peu inexplicable la différence de son, puis je veux dire, on pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une aura avec l'aiguille qui lit.
C'est pas compressé. Ouais.
C'est très très différent, la compression, le son, la largeur, tout ça, puis nous autres, de pouvoir écouter notre musique qui est très influencée des années 60-70, de pouvoir l'écouter sur vinyle, pour nous autres, c'est la vraie affaire, tu sais. Puis en plus, l'album, on l'a mixé de façon analogique avec Pierre Rémillard. Puis ça, ce que ça veut dire, en fait, c'est que au lieu d'être mixé dans un ordinateur avec un écran puis une souris, c'est mixé sur une console puis toutes des machines. Fait que, tu dans le fond...
Comme c'était fait avant.
Tu places toutes les pitons, mettons, tu les places pour vraiment que ce soit optimal, puis après ça, t'imprimes ton mix, puis voilà, c'est ça, puis tu peux pas vraiment reprendre après, parce que si tu fais une autre tune, ben tu vas changer les settings, puis ça sera plus le même mix, là. Fait que c'est il y a comme une performance dans le mix qu'il y avait dans le temps, puis ça laissait des imperfections sur des mix, mais en même temps, il y avait quelque chose de charmant là-dedans. Puis je trouve qu'on a un peu perdu ça avec le numérique, on peut photoshopper à l'infini notre musique, puis ça, on voulait pas tomber là-dedans.
Est-ce que le fil conducteur est important? Comme c'est votre influence, les années 60-70, c'était ça, les albums, c'était une ligne directrice qui se suivait, ou en tout cas un album qu'on écoutait du début jusqu'à la fin. Maintenant, on flippe ça de tous les bords, on écoute ça random, aléatoire, on passe même d'un artiste à l'autre, de chanson en chanson. Est-ce que pour vous autres, c'est important qu'il y ait une ligne sur le disque?
Oui, puis à un moment donné, on était même à se dire, parce qu'on en a jasé pendant longtemps, puis tout ça, on a décidé de mettre l'album en deux côtés, vraiment face A, les tunes un peu comme plus faites en tournée, ouais. Face B, les tunes un peu plus prog, tout ça. Puis, à un moment donné, on était à se dire, hey, finalement, il n'y a rien que nous autres qui va s'en rendre compte, là, entre les deux puis tout, parce que finalement, les gens n'écoutent plus les albums aujourd'hui, etc., etc. Puis, je suis très heureux de te dire qu'on s'est trompé. Parce que il y a beaucoup de critiques qui ont parlé du fait que l'album est en deux côtés, tout ça. Il y a beaucoup de fans, d'amis, d'entourage qu'on a rencontrés qui aimaient le fait que le fil conducteur soit comme ça, puis tout ça. Fait que finalement, on a eu plus, disons, de feedback de ça qu'on pensait en recevoir.
Y avez-vous pensé de dire on va faire juste le côté A, par exemple, ou juste le côté B? Juste des tonnes plus deep ou juste des tonnes plus légère?
Ben, si on avait fait deux EP, par exemple, ouais. Ça aurait été cool de faire ça. Puis d'ailleurs, c'est pas exclu qu'à un moment donné, on va faire ça, c'est-à-dire une production peut-être un petit peu plus courte, avec vraiment un tag, une identité, puis après ça, une autre, puis tout ça, puis tu sais, pouvoir explorer là-dedans. Je pense que là où on en est, c'est une bonne affaire qu'on ait les deux dedans, parce que, encore par rapport aux critiques de l'album, les gens s'entendent pas, puis c'est parfait. Il y a Geneviève Bouchard du Soleil qui a dit qu'on entend le vrai Raton Lover dans les Toon Prog. Puis à Radio-Canada, on a entendu récemment que dans les tunes plus joyeuses qu'on découvrait vraiment notre musique. Fait que le fait que les gens soient pas d'accord d'une station à l'autre, d'un média à l'autre, écrit radio, etc., pour nous autres, c'est comme, OK, yes, ça veut dire qu'on a un peu réussi à faire les deux, finalement, tu sais. Fait qu'on est bien content de ça.
Ça fait 10 ans l'an dernier, les débuts de Raton Lover, est-ce que je me trompe?
2006? Ben, en fait...
Le début à 3.
C'est vraiment la genèse, parce que, tu sais, on avait des projets ensemble, on a eu toutes sortes de projets, puis souvent, les gens, ça, c'est un peu trompeur de dire ça, parce que c'est comme de dire qu'on aurait fait deux albums en 10 ans, ce qui est faux, là. On a commencé à penser au nom Raton Lover en 2013. Fait que, mais en même temps, entre 2006 et 2013, il s'est passé toutes sortes de projets qu'on a eu ensemble. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on joue ensemble, qu'on se connaît, puis qu'on travaille, puis qu'on compose ensemble. Mais Raton Lover, en tant que tel, est né 2013, 2014, le premier album. Puis on a même, tu sais, les 5 membres sont arrivés en 2014. Là.
Qu'est-ce qui vous unissait au départ, au début de tout ça, les trois en 2006?
C'est un ami à nous. Zach, qui nous a réunis. En fait, moi, il m'a choisi dans le band parce que je portais un gilet d'un band qu'on aimait les deux. J'avais un gilet de Sublime, puis il disait « Ce gars-là doit être bon au drum, il aime Sublime. »
OK. C'était une audition facile
quand à passer. Quand tu penses, Marc, que je suis probablement dans Raton Lover aujourd'hui...
À cause de t-shirt.
À cause de mon t-shirt de Sublime. D'ailleurs, je remercie Mathieu, mon ami, qui me l'a offert en secondaire 5. Non, mais il y a des affaires niaiseuses.
Parcours, ben
ouais. Il y a des affaires super niaiseuses des fois qui changent complètement notre parcours. Par exemple, les jams qu'on a animés pendant 5 ans à Québec, à un moment donné, j'arrive dans un dépanneur, la fille qui travaille en arrière du comptoir, elle a l'air d'une musicienne, puis je sais pas pourquoi, j'ai dit « Hey, salut, toi, tu fais-tu de la musique? » Puis elle me dit « Ouais, j'anime des jams, hein. » Je me ramasse la bouche, finis par être drummer pour eux autres. L'année d'après, Martin et Simon s'ajoutent à nous autres, puis on finit par organiser des jams à toutes les semaines pendant 5 ans, puis à tous les jours du festival d'été. Tout ça à cause d'une rencontre complètement fortuite. T'sais. Quand tu penses aussi à la rencontre avec Danny Placard, ah oui. C'est souvent des affaires, souvent des erreurs de parcours quasiment qui nous amènent le plus de fruits puis de trips. Là, ouais.
Est-ce que ces soirées-là de jam, ça a fait de vous des meilleurs musiciens? Parce que vous avez testé de tout, vous avez joué avec plein de monde différent. T'as juste cité Grand Corps Malade tout à l'heure, qui est un autre registre.
Totalement.
Vraiment complètement différent.
Ben, des meilleurs musiciens, je le sais pas. Un peu, oui, ça nous permettait de pas être rouillés parce qu'on le faisait à chaque semaine. Mais je pense plus des meilleurs humains aussi. Tu sais, je veux dire, tu rencontres toutes sortes de personnes, du monde de partout, de toutes sortes de cultures. Tu joues toutes sortes de musiques, tu rencontres, tu jases, je veux dire, plus des meilleurs humains. Ouais.
Puis en plus, je pense, par rapport à ce que tu dis des meilleurs humains, c'est que t'es obligé de mettre ton ego de côté quand t'organises un jam, parce que t'es là pour être au service de la personne qui vient faire sa tune.
Ouais.
Puis la personne, des fois, ben, elle a pas une immense confiance, ou au contraire, elle en déborde peut-être un peu trop. Puis ben là, il faut que tu fasses le mieux possible, le meilleur arrangement possible, maintenant sur le fly, devant le public, la salle est pleine, le monde attend. Ok, c'est un fa, un la mineur, il y a un ré là, puis là, un moment donné, il y a un bridge là, je vais te montrer tantôt, tu vas voir, tatata, qu'on se lance, puis on joue à tune. Ben, le fait de se lancer dans des affaires de même, non seulement ça nous a développé notre radar, mais aussi notre sens du de l'humilité, puis d'être là pour être au service de la musique ouais. le plus possible. Parce qu'en fait, je pense que c'est un peu ça que les gens ont apprécié à travers les années, de venir nous voir. Il y a des gens qui venaient de semaine en semaine pour voir les jams, comme aller voir un show, tu sais. Alors qu'ils savaient absolument pas quel artiste allait se présenter, puis qu'est-ce qu'on allait jouer. Nous-mêmes, on le savait pas. Mais en même temps, on parlait de lâcher prise tantôt. Si ça, c'est pas un bel exercice de lâcher prise, je me demande bien c'est quoi.
Et on est meilleur sur scène ensuite parce qu'on est habitué à toutes les situations possibles. On peut se retourner n'importe comment, n'importe quand. Là.
T'es prêt à toute éventualité, tu peux te retourner sur une scène.
Et on est plus à l'écoute du public aussi parce qu'on connaît les réactions des gens et on peut changer un pacing juste en voyant l'œil ou en tout cas le genre de foule qu'on a sur place.
Ouais, ça nous amène à nous adapter puis à être vraiment au service de la musique le plus possible.
Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. J'invite les gens à procurer votre album puis à aller sur votre page Facebook et sur votre site pour aller voir en show. Merci.
Hey, merci.
Merci beaucoup.